Vous écoutez
RMC. RMC.
Stephen, c'est
Zap.
Non, Stephen, c'est pas le boss à la maison.
Wow, non, mais personne autour de la table est le boss à la maison.
Alors là, moi, je revendique.
T'es le boss, toi ?
De pas être le boss.
Adrien, il y avait Adrien, il est tout seul.
Donc Adrien, c'est le boss à la maison, il est tout seul.
Et Denis ?
Denis, c'est même Coco le boss.
Ah, Denis, mon oui. Pauvre, prends de ses maillettes japonaises.
Donc, alors. Le Grand Prix du Japon, donc il y a quand même un vainqueur. Il s'appelle Kimi Antonelli. Il s'est imposé devant Piastri et Leclerc. Alors, Antonelli, c'est sa deuxième victoire consécutive à 19 ans et 7 mois. Il est le deuxième plus jeune vainqueur de Grand Prix. C'est Verstappen qui reste le plus jeune. Mais il est tout de même le premier pilote de l'histoire en tête du classement avant d'avoir 20 ans. Ça vous plante un peu le phénomène. Et puis il y a une autre stat qui est assez incroyable. C'est le premier Italien vainqueur de deux grands prix consécutifs depuis Alberto Ascari en 1953.
C'est, vieux, ça.
Ouais. C'est incroyable quand même cette
non,
stat.
Mais, tu sais que quand du coup, puisque tout le monde parle des derniers pilotes italiens, des pilotes qui avaient gagné plusieurs fois et tout, on se rend compte que l'Italie, qui est quand même un grand pays de Formule 1, hein, puisque bon, ils ont quand même la voiture la plus mythique de l'histoire de la Formule 1. Eh ben, les pilotes italiens, en réalité, les cherches, quoi.
Ils n'ont pas de grands champions.
Très, 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 mais toutes les voitures, elles sont mythiques. Lamborghini, Maserati, Ferrari, c'est les Italiens qui ont inventé comment ils s'appellent, les designers Pinifarina, tout ça.
Pinifarina.
Putain, c'est que des Italiens.
Hein. Antonelli, donc, Eric, quand même, phénomène, non?
Bah, écoute, déjà, ouais, parce que il faut le comparer à ce que fait Russell en même temps, puisque on est d'accord que les Mercedes sont les voitures les plus performantes du moment. Sauf que, alors hier, il a quand même beaucoup de chance sur
le safety car.
Quand tout le monde rentre pour changer les pneus. Lui, il reste parce que Russell rentre avec lui et dans le tour où il va rentrer, où il allait rentrer, en tout cas, juste pas loin derrière, il y a le safety car. Donc, il fait un arrêt gratuit.
Un tour près, donc là, il a un coup de chance.
Oui, ça se fait. Et sur ce Grand Prix, il a un petit coup de chance, sauf que quand il est devant, il est performant, quoi. Puis leur voiture marche fort, hein. C'est sûr qu'ils sont très au-dessus.
Et là, Anthony, il est fort, c'est qu'il loupe son départ. Il est en pole position et après premier virage,
ils ont toujours du mal.
Et finalement, il est là, mais c'est un sacré garçon.
Alors, juste à noter que McLaren, du coup, est devant. Piastri, second, Norris, cinquième, ça bosse.
Alors, on passe au cyclisme. En cyclisme, Vingegaard a confirmé sa forme en dominant le Tour de Catalogne. Depuis le début de saison, Vingegaard, c'est 6 victoires et les 2 courses à étapes World Tour qu'il a disputées, Catalogne donc et Paris-Nice. Et surtout qu'il y avait un beau plateau. Bon, évidemment, il n'y avait pas Pogacar, mais il y avait beaucoup de coureurs qui sont forts sur les courses à étapes. Prochain objectif, le Giro, donc qui part le 8 mai. Et ensuite, évidemment, le Tour. Et puis, toujours en cyclisme, ce week-end, Gent-Wevelgem a été remporté par le sprinter Jesper Philipsen. Alors, on dit plus Gent-Wevelgem.
On dit comment,
évidemment, on dit In Flanders Fields.
Voilà.
Oh, putain, bravo. Quel bel accent. On dirait Fred qui nous, j'allais le dire.
Le problème, c'est que, on l'a pas encore en tête, ce nom.
Non.
Parce que Steve, il me fait, non, c'est pas Gent-Wevelgem.
C'est pour que tu t'arraches.
Je me lance.
Oui.
Non, alors, ce qui est important, c'est que Mathieu Van Der Poel n'a pas fait une grande course. Il était devant avec Van Aert. Ils ont été rattrapés par le peloton. Il y a quand même un petit doute, Vincent, sur sa capacité à empêcher Pogacar de faire le Grand Chelem. Ce qui veut dire aussi que le Grand Chelem, il est vraiment possible cette saison pour Pogacar, hein, parce que Van Der Poel n'a pas l'air au mieux, du moins en ce moment. Il peut se reprendre, évidemment. Hein, mais...
Ouais, mais c'est sur Paris-Roubaix qui peut se la gagner, même s'il n'est pas en forme, non ?
Paris-Roubaix.
C'est un mec qui est là-dessus, dès que ça arrive, Paris-Roubaix, il a des ailes. Hein. Donc, qu'il soit en forme ou pas, ça devient insupportable pour toute cette génération. Donc, il peut y mourir sur le vélo pour gagner Paris-Roubaix parce que ils peuvent rien gagner d'autre. C'est-à-dire, Pogacar, le tour. Bon, mais toute cette génération, il n'y aura rien. Derrière, il y a Sexas qui arrive parce que, mine de rien, les Van Der Poel et tout, ils doivent regarder Sexas arriver. Ils se disent, aïe. Si l'autre, il arrive, l'autre, c'est l'autre qui prend le relais. Donc, écoute-moi, sur Paris-Roubaix, il va compter, même s'il n'est pas un super beau, t'inquiète pas.
Il n'était pas loin, Pogacar, l'année dernière, de Paris-Roubaix. Hein. Il a surpris tout le monde il y a un an.
En plus, Van Der Poel, tu m'enlèveras pas de l'idée que dans son programme d'entraînement, puisque tu as raison, ces mecs-là, ils courent longtemps, donc tu peux pas avoir, être en forme toute la saison. Donc, il y a des pics de forme et il y a un entraînement qui te permet d'arriver en forme dans tes courses préférées. Ah. Donc, j'arrive pas à croire que Van Der Poel sur le Paris-Roubaix, sera pas en bourre, quoi.
Oui, mais enfin, c'est dans 15 jours Paris-Roubaix, hein. Ça, là, ça y est, c'est l'enchaînement,
oui,
là.
Justement. Voilà.
Oui, mais là, il doit être en forme, normalement. Enfin, Van Der Poel, il a pas, là, c'est les classiques du printemps.
Et qui te dit qu'il a tout mis? Je sais pas, peut-être qu'il était peut-être à la rupture,
mais enfin, non,
peut-être
mais en fait, ce qui va se passer.
Tu vas voir, après, il y aura une surcompensation sur ce Paris-Roubaix. Pour lui, c'est
mais il n'y a pas de chance pour que Van Der Poel va pas éclater Pogacar. Il va y avoir un match incroyable entre les deux, là. Ça va être le Paris-Roubaix, peut-être le plus serré de l'histoire, là.
Mais bien sûr. Non, mais Pierrot dit, il est pas en forme. Oui. Il faut savoir que, dans le programme d'une saison, mais dans tous les sports, pas qu'au vélo, mais le vélo c'est plus prégnant parce que c'est un sport imminemment physique, oui. Ça se dit.
Ouais, physique.
Voilà. Donc comme te dit Vincent, c'est-à-dire que quand il se met sur une course comme celle-là, c'est peut-être aussi dans son programme de préparation pour le Paris-Roubaix, c'est-à-dire que il sait que sur cette course-là, il est pas plein badin et c'est un entraînement supplémentaire. En version course, quoi.
Après, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'année dernière, le début de saison de Van Der Poel, il est moins bon que celui de l'année dernière. Donc l'année dernière, il arrivait à Paris-Roubaix, il a quand même énormément de confiance. Le Milan Sanremo, je pense, lui a fait mal quand il tombe. Quand il tombe, et ben, il termine moins bien que Pogacar avec le doigt en sang et compagnie. Donc maintenant Van Der Poel, il veut Paris-Roubaix, c'est chez lui. Donc écoute, à voir s'il est capable de faire péter Pogacar. Maintenant, Pogacar, c'est deuxième Paris-Roubaix.
Mais il n'y a pas que ça. C'est pas que péter, c'est la course par elle-même. Je veux te dire, il faut être très courageux.
Il faut la connaître.
Elle est terrible, cette course. Donc, il suffit pas d'être Pogacar. Il peut prendre un butal d'entrée de jeu.
Crever trois fois.
Pas résister, crever trois fois. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la forme physique. Il y a la tactique.
Alors, on zappe le vélo.
Et la chance.
Et on va regarder. Nous sommes lundi. Chaque lundi matin, les classements de tennis sont réactualisés. Donc, Arthur Fils a gagné 2 places au classement ATP. Il est 28e. Oh, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est 8e à la race. Avec peu de points à défendre sur la fin de saison, puisqu'il a raté une énorme partie de la saison dernière. Ce qui veut dire que une qualif en fin de saison dans les 8 premiers, ça semble possible. Ah bah, malgré sa demi-finale perdue face à Lehečka à Miami. Est-ce que tu as été déçu, Steve, de la performance?
Oui, déçu. Déçu par la sévérité du score. Le 6-2, 6-2, il fait mal parce que, encore une fois, de nouveau retombé sur terre après s'être enflammé sur Arthur Fils. Après, on ne va pas non plus le détruire parce qu'il perd en demi-finale la Masters 1000. Il y a beaucoup de débats sur la gestion des émotions d'Arthur Fils, qui laisse beaucoup de gaz sur la célébration entre les points, qui a laissé beaucoup de gaz sur la célébration sur sa victoire contre Tommy Paul après avoir sauvé 4 balles de match. Il a laissé beaucoup d'influx nerveux. Il a pas su se remettre dedans sur Lehečka. Après Lehečka, il était aussi content de jouer Arthur Fils en demi-finale, hein, parce qu'on voit que dans un sens de français en disant il joue Lehečka, c'est une belle opportunité. L'autre, il se dit c'est une belle opportunité aussi de jouer Arthur Fils.
Le 30e mondial
en demi-finale. Après Lehečka a pété contre Sinner en finale.
D'ailleurs, on a vu qu'il y a un énorme écart entre ces joueurs-là et Sinner.
Oui. Sinner qui a fait l'enchaînement Indian Wells Miami, très rare à faire. Il a gagné les deux tournois sans perdre un set, je crois que ça n'a jamais été fait dans l'histoire du tennis. Mais écoute, Arthur Fils, maintenant c'est Monte Carlo. Et l'année dernière, rappelez-vous, c'était les prémices où on s'enflammait un peu pour Arthur Fils, qui avait fait quart de finale à Monte Carlo en poussant Alcaraz en 3-7. Donc écoute, on va voir s'il continue sur sa bonne lancée. Mais oui, j'étais un petit peu déçu. Puis surtout, je savais que Vincent et Denis allaient me tomber dessus.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est super. Arthur Fils, je pense que c'est le mec, ça va être le meilleur de sa génération en France. Mais voilà, quoi. Il se posera la même question qu'il s'est posée avec les mousquetons. C'est qu'ils gagneront pas parce qu'il y a Sinner qui est loin devant, t'as Alcaraz qui est loin devant, et puis t'en as un ou deux qui seront encore loin devant et que tu gagneras.
Non, mais il faut pas oublier que
le bonheur, c'est qu'il gagne un grand chelem, quoi. Le grand bonheur, mais c'est pas fait.
En tennis, tu perds toutes les semaines, c'est comme ça, et c'est pour tout le monde pareil.
Oui,
tu gagnes une fois de temps en temps.
Quand on parle, Pierrot,
est-ce qu'on
a l'espoir d'un grand chelem?
Bah, moi, je pense qu'on peut avoir l'espoir. sport d'un grand.
Est-ce qu'ils vont faire du paddle ceux qui perdent toutes les semaines?
Après, regarde, Vincent, il y a des mecs qui gagnent pas leur simple, mais ils sont comme la Coupe Davis, ils sont champions de France quand même, hein, comme moi.
Non, mais regarde, Arthur Fils, il est beaucoup trop tôt pour se dire, bah, ça va faire comme la génération d'avant. Pour l'instant, il est sur une progression. Donc, la progression, tu sais pas quel est le plafond. On sait pas. Peut-être que dans un an, en demi-finale, il éclatera.
Là où je vois Vincent, c'est qu'on connaît le plafond de Sinner à 15.
Non, mais ça d'accord.
Il est très, très, très haut.
Oui, mais ça d'accord. Mais lui n'est pas encore arrivé au top de sa carrière.
Non.
Voilà. Donc, c'est l'espoir.
Mais il y a de fortes chances qu'il soit top 10 à la fin de saison.
Ce qui serait déjà très beau.
Et ça facilite les tirages au sort, les tableaux, tes têtes de série. C'est pas les mêmes tournois après.
On va garder 45 secondes.
Il est pas arrivé à fond, même fait. Il est quand même plus vieux qu'Alcaraz, quand même.
Il est plus vieux qu'Alcaraz, c'est possible. C'est la même génération, oui. Mais ça, oui. Bon, bah après,
pareil,
un peu plus jeune, peut-être. Les mecs précoces comme Alcaraz, il y en a un par génération. Alcaraz, donc c'est pas très grave. Hein. Alors, on va garder 30 secondes, du coup, pour saluer d'immenses champions. C'est le duo Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, qui sont champions du monde après avoir été...
Un an de moins, Arthur Fils.
Il a un an de moins que Alcaraz.
Ouais.
Donc, ils sont champions du monde après avoir été champion olympique. On écoute Guillaume Cizeron dans Bartoli Time hier.
Un mélange de plein d'émotions, il y a évidemment beaucoup de fierté, on est super heureux et satisfait de réaliser qu'on a atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés il y a un an, des objectifs qui nous paraissaient un peu fous, et de voir qu'on y est arrivé, ça nous remplit de joie. Je pense qu'il y a aussi un tout petit sentiment de nostalgie, parce que voilà, on a pris tellement de plaisir à patiner ces deux programmes, et on leur a dit au revoir cette semaine à Prague, mais voilà, avec des petites larmes de bonheur.
Voilà, Guillaume Cizeron, champion du monde de danse sur glace avec Laurence Fournier-Baudry. Ça devient des vraies stars, Vincent. Attention.
Ah non, hein. c'est des phénomènes quand même. Lui, quand il va finir sa carrière, il va se dire quand même, je suis pas passé à côté.
Par contre, là, la redescente, elle doit être dure. Hein, parce que l'exigence de ce sport, quand tu passes d'un entraînement quotidien, de cette difficulté-là, à rien. On sait ce que c'est, Vincent. C'est compliqué. Hein.
Ils vont faire des galas.
C'est une journée de boulot.
Non, mais eux,
c'est 7h, 8h de boulot par jour.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent continuer derrière. Il a raison, Adrien.
Ils vont faire tous les galas du monde. Oui.
Bah oui, Holiday on Ice. Ça existe à Caen, Holiday on Ice? Ça existe à Caen?
Oui, bien sûr.
Ouais. Parce que quand je suis petit,
ils vont prendre 50 000 par Presta.
Alors avant le jour,
ils t'ont jamais proposé, Vincent. Ils t'ont jamais proposé de faire. Il paraît qu'ils refaisaient un remake de Fantasia sur la glace. Et ils ont pris toute la première ligne, le bec de Bordeaux.
Ouais, non, mais écoute-moi, eux, non, déconne, mais ils ont une chance incroyable, c'est qu'ils peuvent continuer jusqu'à 55 marrons, hein, et prendre de l'oseille, et être adulés par le public, parce que c'est leur cam aussi, quand même, d'être devant le public. Ils peuvent se régaler. Non, c'est.
De l'oseille, je crois qu'on peut en prendre maintenant, Pierrot.
Alors, t'entends la petite musique? S'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour vous inscrire et tenter de gagner 120 000 euros, c'est même le dernier jour pour s'inscrire, car demain, nous aurons le gagnant ou la gagnante. Alors, comment faut faire, Adrien?
Vous envoyez maintenant RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. C'est toute la journée, Pierrot. Hein. Il n'y a pas de 10 minutes.
C'est quand
ça.
Vous voulez.
C'est quand vous voulez. 100 000 euros pour vous, 20 000 euros pour un de vos proches. Vincent, c'est 5 000 euros par mois pendant 2 ans de salaire sans rien faire. Si vous gagnez les 120 000, c'est pas mal quand même. C'est un gros salaire.
120 000 balles net d'impôts, quoi, c'est énorme.
RMC par SMS au 732-16, et tu fais bien de le répéter, c'est net d'impôts. C'est-à-dire que si vous gagnez les 100 000 direct pour vous, vous donnez votre RIB à RMC, bim, 100 000.
Excuse-moi, j'aime bien le répéter.
Net d'impôts, Vincent.
Et je vous rappelle que c'est un tirage au sort intégral. Hein. Il vous suffit d'être inscrit une fois et vous avez autant de chances que tous les autres inscrits. Donc allez-y, c'est maintenant RMC par SMS au 732-16.